This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هاتو جلوبال.
From CNN Radio 7.
من راديو داتشا.
Brasil, cast the king.
Turkey, photo.
Slava, Russia.
United States of America.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde, aujourd'hui en Ukraine. Marc Crépin tout à l'heure pour un point sur cette guerre au cœur de l'Europe. La journée a encore été très violente. Partout ailleurs, Éric Valmire nous parlera du trafic d'animaux. Laurence Perron, elle, viendra parler de cinéma, le cinéma du monde. Le film s'intitule « Félix et Mera », il est canadien. À 18h55, Arnaud Leparmentier fera son édito en forme d'hommage ce soir, hommage à l'ancien président allemand Richard von Weizsäcker qui est décédé samedi dernier. Mais tout de suite, direction la Chine.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Alors j'aime beaucoup l'expression « seul le prononcé fait foi ». On la trouve par exemple en tête du discours d'un homme politique dont une version papier est donnée aux journalistes avant le fameux prononcé. Alors il y a parfois des écarts entre le texte écrit et le discours oral, entre guillemets, des écarts qui disent beaucoup de choses, surtout dans le contexte diplomatique où les mots ont un sens, une portée, et c'est ainsi que Manuel Valls devait, devant les officiels chinois, dire que France et Chine étaient, je le cite, « deux alliés l'un à l'autre ». Alliés, terme fort, terme puissant, passé à la trappe in extremis, au profit d'une formule plus vague que je vous cite. La France et la Chine sont deux grandes nations qui aiment parler de leur attachement farouche à leur indépendance. Anecdotique, pas nécessairement. Je poserai en tout cas la question à Philippe Lecor. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un grand spécialiste de la Chine, chercheur à la Brookings Institution à Washington et auteur de l'offensive chinoise en Europe chez Fayard. Avec moi également, Dominique André. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Service étranger de France Inter et ancienne correspondante d'Inter à Pékin. Il faut faire attention aux mots qu'on prononce. Nous ne sommes pas alliés au sens strict de la Chine, Philippe Lecor.
C'est-à-dire que nos amis américains, que j'ai la chance de bien connaître, seraient sans doute un petit peu émus s'ils entendaient cela, parce que certes, on a des rapports au niveau, par exemple, des membres permanents du Conseil de sécurité. Vous savez que la France joue un dialogue permanent avec la Chine, à Pékin, sur ces sujets internationaux. Mais il y a également énormément de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, en particulier les interventions militaires à l'étranger, par exemple. Vous savez que la Chine a cette attitude de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures. Alors, elle le fait peut-être sous d'autres formes, y compris sur le plan financier et économique. Mais sur le plan militaire, il est clair que sa zone d'influence se limite à l'Asie.
Et donc, on comprend pourquoi le mot « allié in extremis » n'a pas été prononcé. La France et la Chine sont deux grandes nations qui aiment parler de leur attachement farouche à leur indépendance. Est-ce que ça vous semble bien caractériser la nature des relations entre nos deux pays ?
C'est-à-dire que ça dépend
enfin,
à quel
si
niveau.
Vous pouvez déjà m'expliquer ce que ça veut dire, cette phrase, ou trouver juste un mot pour qualifier la relation entre la France et la Chine, vous diriez quoi ?
C'est une relation dont on vient de célébrer les 50 ans. Donc Manuel Valls était en Chine pour mettre un terme à cette relation. On adore les grands messes, on adore Versailles, voilà, la cité interdite, des lieux magiques, des sons et lumières. Et puis on adore les grands contrats, les crédits protocolaires, ce genre de choses. Mais c'est une relation qui est quand même faite de haut et de bas, qui s'est caractérisée par des difficultés, par exemple sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec la flamme olympique, avec le Tibet, etc., et qui aujourd'hui a un petit peu revit, en tout cas, on a aplani un certain nombre de difficultés, de différences.
J'ai l'impression que ça a été plutôt chaleureux même comme voyage de la part de Manuel Valls et de ses homologues et interlocuteurs chinois.
Moi, je pense que Manuel Valls, il a employé un langage de parler vrai, qui a été bien perçu. Il a dit des choses que les hommes politiques français ne disent jamais. C'est-à-dire, notre droit du travail n'est pas un obstacle, notre fiscalité, nos syndicats, venez investir chez nous. Mais il l'a dit avec des mots simples, directs, qui appellent au pragmatisme des Chinois, qui n'aiment pas nos complexités. On en a déjà beaucoup en Europe, la diversité des pays, des langues, notre millefeuille administratif, l'Europe, tout ça, c'est quand même un peu difficile à comprendre pour des gens.
Donc il a trouvé les mots simples pour pour le dire. Dominique André.
Un peu comme Angela Merkel. D'ailleurs, si on devait un peu comparer la visite de Manuel Valls à celle d'Angela Merkel, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Philippe Lecor, il parle effectivement simplement. Il respecte la farouche indépendance de la Chine. Et il rencontre discrètement des dissidents. On n'en connaît pas la liste. Je ne sais pas si on n'était pas à Pékin à ce moment-là, donc difficile pour nous de la connaître. Mais ça ressemble un peu à ce que fait Merkel en Chine, vous ne trouvez pas ?
Ah, en tout cas, c'est ce que disent son entourage, hein, qu'elle évoque les droits de l'homme discrètement. Mais très honnêtement, on n'en a pas la preuve. Et je pense quand même que la situation actuelle de l'Europe, l'endettement, alors peut-être l'Allemagne est un des pays les moins touchés par cette crise économique européenne, mais il est clair que maintenant, ce qui distingue la situation actuelle de la situation, disons, d'il y a 10 ans, c'est que on fait concurrence aux autres pays européens, non pas pour des parts de marché en Chine, mais pour attirer des investisseurs en Europe. Parce qu'il y a des pays comme la Grèce, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, comme l'Italie, comme le Portugal, mais aussi comme la France, qui ont besoin des capitaux chinois pour développer leurs entreprises.
Pro-business, c'est le mot qu'a employé Manuel Valls à plusieurs reprises face à ses interlocuteurs chinois. Sur le fond, c'est ça la nature exacte de la relation entre la France et la Chine. C'est une question de business, d'argent, de contrat et peut-être pas point la ligne, mais pour l'essentiel.
Il y a quand même la culture, les sciences, la médecine, l'agroalimentaire. Bon, vous allez me dire que c'est aussi du business. Il y a une sorte quand même de proximité intellectuelle et de personnalité des deux pays. C'est peut-être ce que les rédacteurs ont voulu transcrire. En même temps, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de rapprochement politique vraiment au sens où on l'entend, ni militaire. Les liens de la Chine et de l'Europe sont relativement ténus, tout simplement parce que les Chinois ne veulent pas que plus de gens viennent se mêler de leurs affaires dans leur zone qui est l'Asie-Pacifique, où il y a déjà les Américains qui ont des bases militaires, ce qui n'arrange pas du tout les Chinois. Ils aimeraient bien être tranquilles chez eux, gérer leurs affaires de leur zone d'influence.
Oui, donc c'est un mariage d'intérêts. On peut le dire comme ça.
C'est un mariage d'intérêts. Nous avons des grandes entreprises qui sont très présentes depuis toujours. L'approche qui est celle de la France, qui a été d'emmener des délégations avec des grandes entreprises et de construire des centrales nucléaires et des Airbus, elle durera ce qu'elle durera. Et aujourd'hui, la question des transferts de technologies se pose parce qu'il y a un certain nombre de risques par rapport à l'Allemagne, qui a beaucoup poussé ses PME, qui a travaillé sur l'éducation, sur la formation des élites chinoises. Donc on le fait, mais on est peut-être un tout petit peu en retard.
Dominique André.
C'est vrai que je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que sur le plan culturel, il se passe quelque chose entre les Français et les Chinois. D'ailleurs, on dit souvent que les Chinois, quelque part, sont des Latins. Effectivement, on a un certain art de vivre qui ressemble parfois à celui des Chinois. Et pourtant, on a l'impression quand même que les investisseurs chinois ont du mal à venir en France parce qu'ils ont un problème culturel quand il s'agit d'économie ou d'entreprise.
Philippe Lecor.
C'est-à-dire qu'on est perçu comme le pays de l'art de vivre uniquement, de la culture, des loisirs. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la marque la plus symbolique, finalement, qui a été rachetée par les Chinois, c'est Club Med. Mais pourtant, on a des très belles sociétés, des très belles marques. On a eu 2 prix Nobel l'année dernière, dont un d'économie. On a des prix Nobel dans tout un tas de disciplines scientifiques. Donc, je pense qu'on a un problème de perception, effectivement. Et on ne passe pas pour un pays d'ingénieurs. Or, la Chine, depuis très longtemps, est dirigée par des ingénieurs. Vous savez qu'ils ont tous des doctorats en métallurgie, en électronique, enfin tout un tas de choses extrêmement rares, finalement, en France, où nos élites sont plutôt... Alors, il y a parfois des polytechniciens, mais ce sont plutôt des littéraires ou des hauts fonctionnaires, tout simplement.
Emmanuel Valls a d'ailleurs invité les Chinois à venir plus nombreux faire leurs études en France.
Absolument. Je pense que c'est un enjeu très important pour la relation franco-chinoise. On a déjà beaucoup d'étudiants. Je crois qu'on en a 35 000 ou 40 000. Mais je pense que les États-Unis en attirent beaucoup plus, et la Grande-Bretagne aussi, et même un peu l'Allemagne. Donc, là aussi, il y a une sorte de concurrence entre pays occidentaux parce que c'est une manne à la fois financière et intellectuelle.
Manuel Valls et Laurent Fabius ont fait une balade sur le Bund à Shanghai. Dominique, dites-moi si je me trompe, mais c'est l'équivalent à peu près de la croisette à Cannes ou de la promenade des Anglais à Nice.
Absolument.
Et oui. C'est là que le 31 décembre dernier, à quelques minutes du passage à la nouvelle année, alors qu'elle venait voir un feu d'artifice, 36 personnes sont mortes et 49 autres ont été blessées dans une bousculade. Un mois après ce drame, dans la ville la plus riche et la plus moderne de Chine, l'enquête a mis en évidence une négligence des autorités, des têtes sont tombées, reste le traumatisme et une peur bleue des grands événements. Pour information, les festivités du Nouvel An chinois ce mois-ci, 19 février, sont déjà annulées. Écoutez le reportage à Shanghai de Delphine Sureau et Charlie Wang.
La promenade coloniale du Bund, le long du fleuve, attire toujours autant de monde. Les touristes bravent le froid pour prendre la pause devant les gratte-ciels qui font la fierté de Shanghai. Mais le square Chenyi, où a eu lieu la bousculade du Nouvel An, est interdit d'accès.
Il y a des barrières partout, c'était pas comme ça avant.
Non, avant c'était juste l'escalier, on peut monter, on peut même rentrer dans la place Chenyi. Chenyi qui est le premier maire de Shanghai. Mais maintenant, on voit partout, il y a des barrières et on ne peut pas rentrer, il y a des flics partout autour.
Circuler, il n'y a rien à voir. La police nous interrompt en pleine interview.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ?
La bousculade a eu lieu il y a un mois, donc je fais un reportage.
Vous avez le droit ?
Oui.
Vraiment ?
Le temps d'un contrôle de papier et nos interlocutrices ont disparu, tout comme les fleurs déposées dans les premiers jours de 2015 en mémoire des 36 victimes de la bousculade. Du point de vue des autorités, l'incident est clos. Pourtant, il écorne durablement l'image de Shanghai, la vitrine de la réussite chinoise. Direction Shujiahui, le quartier de l'informatique. Liao, 25 ans, nous a donné rendez-vous dans sa boutique de smartphones. Il fait partie des 49 blessés, des rescapés de la bousculade. Pour le réveillon, il avait décidé d'aller sur le Bund, de monter sur la promenade et d'admirer le feu d'artifice.
J'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de monde. On a avancé d'abord lentement, pas à pas, jusqu'en bas des escaliers. Et quand j'ai commencé à monter, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Parce que je marchais pas, c'était la foule qui me portait. Et puis, des gens devant moi ont voulu rebrousser chemin, comme ça, sans prévenir. Et beaucoup de gens se sont retrouvés coincés. Ils avaient du mal à respirer. Ils criaient « ne poussez pas, ne poussez pas ». Et d'un coup, en bas de l'escalier, plusieurs personnes sont tombées. Ça a eu un effet domino.
Vous avez eu peur ?
Bien sûr que j'ai eu peur. Quand je suis tombé, j'ai pas compris pourquoi. Et quand je me suis réveillé, il y avait une dizaine de personnes allongées sur moi qui me coinçaient le bas du corps. C'était très lourd, j'avais du mal à respirer. Je pouvais pas me dégager, même en poussant de toutes mes forces. Je suis resté comme ça 10, 20 minutes et la police n'arrivait pas.
Liao a été dégagé par des touristes. Il s'en sort bien, une entorse et des douleurs au côté droit. Il a quand même passé une semaine à l'hôpital.
Je pensais pas que ça puisse finir comme ça, surtout dans une grande ville comme Shanghai. Je pensais que la gestion de ce genre d'événement était bonne.
Alors que s'est-il passé ? Jugé parti, la municipalité a mené l'enquête pendant 3 semaines. Une éternité pour les familles des victimes, parquées dans des hôtels avec interdiction de parler aux journalistes. Les conclusions évoquent des négligences coupables. Les festivités avaient été revues à la baisse, mais le public n'en a pas été informé. Or, les autorités n'ont mobilisé que 358 policiers pour contenir une foule de quelque 310 000 personnes. Aucune alerte n'a été donnée, il n'y a pas eu de demande de renfort. Xiong Xingguang est le chef des services de secours de Shanghai.
Il y a eu une énorme négligence concernant la sécurité du public et l'évaluation des risques. Il n'y a pas eu d'anticipation dans la gestion d'un lieu public aussi important, alors que l'on savait qu'il y aurait potentiellement beaucoup de monde. Il y a eu des carences dans la préparation et une réponse inadaptée.
11 officiels ont été sanctionnés et 4 démis de leurs fonctions. Ces cadres dînaient ce soir-là aux frais de l'État dans un luxueux restaurant japonais à 200 mètres de la bousculade. Mais aucun responsable de haut rang n'a été limogé. Les familles des victimes réclament donc aujourd'hui des sanctions au plus haut niveau. Pour les apaiser, chacune d'elles recevra 800 000 yuans, 113 000 euros. Ce n'est pas suffisant, laisse-t-elle entendre, sans oser le dire au micro, par peur des représailles.
Voilà pour ce reportage de Delphine Sureau et Charlie Wang à Shanghai. C'est un fait divers, dramatique, un fait divers d'ampleur. Quelle lecture en faites-vous, Philippe Lecor ?
D'abord, il y a souvent de ce genre de drame en Chine. Il y a des mouvements de foule importants. Vous savez qu'il y a 4 ans, 3 ans et demi, il y avait eu un train qui avait déraillé, faisant 45 morts. C'était le TGV chinois, donc c'était un drame national. Mais là aussi, il y avait eu des responsables qui avaient été démis de leur fonction. C'était un peu similaire, hein, dans le sens où c'était une grosse erreur de stratégie et de gestion. Moi, je pense que d'une part, bon, c'est une bonne nouvelle que le gouvernement de Shanghai accepte de répondre sur ces sujets. Hein, ouais. C'est pas très fréquent. Mais en même temps, ce pays est très compliqué à gérer. Mais on sent bien une inquiétude dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal.
C'est précisément ma question. Parce que quand il y a un scandale de santé publique, quand il y a un scandale d'alimentation avarié, on a l'impression à ce moment-là, dans un pays où la liberté d'expression est sous contrôle, que la soupape lâche et que là, on peut prendre véritablement la température de la population chinoise. Dominique ?
Oui, mais moi je pense qu'effectivement, on ressent tout à fait le syndrome Tiananmen, c'est-à-dire celui d'abord d'un manque de gestion du rassemblement des foules, puisque en Chine, il n'y a pas de manifestation, la police ne sait pas gérer un rassemblement, ne sait pas gérer une manifestation, donc effectivement, ça se passe très 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 mal à ce moment-là. Et puis effectivement, le risque que dès qu'il y a un rassemblement, le risque que ce rassemblement cristallise vraiment le ras-le-bol, les problèmes sociaux et le malaise qui existe en Chine, qui s'exprime sur Internet, on le voit. Mais effectivement, on sent une police chinoise, des autorités chinoises très 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 mal à l'aise avec le phénomène de la foule.
Philippe Lecor.
Oui, je crois que vous avez parlé d'Internet. Je pense que on ne peut pas parler de la Chine sans parler du phénomène Internet. Hein. Vous avez 80% de la population qui est branchée, connectée sur les médias sociaux, en particulier WeChat et Weibo, qui est une sorte de Twitter chinois. Hein. La Chine a ses propres médias sociaux.
857 millions d'internautes, hein, Philippe.
Absolument. Donc les presque la totalité de la population. Et donc, il est impossible pour les autorités chinoises de contrôler ce flux permanent d'informations qui circulent. Parce que finalement, on peut, à travers quelques mots en chinois, exprimer beaucoup de choses, exprimer le désespoir, exprimer sa grogne, et sa colère parfois, contre les autorités.
Vous savez, il y a une colère ou pas ?
Bien entendu, il y a des milliers chaque année de protestations physiques, des milliers, voire des dizaines de milliers, dans toute la Chine, qui est un pays, comme chacun sait, immense. Et il y a, des millions et des millions de protestations sur Internet qui s'expriment, et qui autrefois s'exprimaient d'ailleurs à la radio, parfois dans des émissions de radio, mais aussi à travers Internet. Et évidemment, parallèlement, on a cette campagne anticorruption très sérieuse, hein, qui a touché des officiels de très haut niveau, et qui touche des gens dans toute la Chine, y compris des vice-maires, des responsables de partis, des gens dans les entreprises, dans les syndicats, parfois dans l'armée.
C'est une opération main propre ou c'est une purge ?
C'est une opération main propre, mais on peut dire que c'est un fonctionnement à répétition qui a lieu tous les 10 ans et qui n'a pas forcément des résultats durables, puisque généralement, la façon de faire des affaires en Chine et tout un tas de choses qui se font en Chine n'existent pas sans les pots de vin, sans le renvoi d'ascenseur, sans l'aide à la famille de quelqu'un.
Dominique ?
Sans parler de Tiananmen en 89, ça fait quand même déjà quelques années que les autorités chinoises surveillent de très très près effectivement cette stabilité sociale. Et je me souviens d'un éditorial de Hu Jintao, donc le président précédent, dans le quotidien du peuple, qui disait que la survie du Parti communiste chinois, cette survie était liée à sa gestion, à sa capacité à gérer la stabilité sociale dans le pays.
Et ça, c'est ce qui est sur la table pour son successeur, j'imagine.
Alors, c'est-à-dire que lui doit consolider son pouvoir. Il est là pour 2 mandats, donc il lui reste à peu près 8 ans ou 9 ans. Donc, il est actuellement en train de faire un peu table rase d'un ancien système pour essayer de mettre en place une nouvelle génération. Et les gens optimistes pensent que ce deuxième mandat sera celui des réformes. Est-ce que ce sera des réformes politiques ? On n'en sait rien pour l'instant, mais en tous les cas, beaucoup de gens vivent dans la crainte, y compris des officiels de niveau intermédiaire. Donc, il y a une vraie paranoïa actuellement.
Merci Philippe Lecor, auteur de l'offensive chinoise en Europe chez Fayard. Merci Dominique d'avoir été avec nous également pour parler de ce pays que vous connaissez si bien. À suivre l'Ukraine, la journée a été encore terriblement violente. Marc Crépin nous en dira plus. Vous écoutez Inter et vous avez bien raison, il est 18h36. Un jour dans le monde. Curtis Harding, Keep on Shining sur Inter, 18h39, direction l'Ukraine.
L'artillerie pilonne Gaza.
Les séparatistes pro-russes défient les autorités ukrainiennes.
À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie accuse la police
d'avoir... Un jour, dans le monde, sur France Inter.
L'Ukraine, où la situation ne cesse ces derniers jours de s'aggraver, et il faut encore une fois appeler les choses par leur nom, c'est bien une guerre qui se déroule en pleine Europe. Marc Crépin, notre correspondant à Moscou, se trouve à Donetsk, en Ukraine. Bonsoir Marc.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Quel a été le climat de la journée, Marc? Encore très violent, hein?
Oui, effectivement, avec évidemment... ce bruit au fond de la ville de Donetsk, vous savez, les grondements lancinants des canons de gros calibre et puis les explosions de missiles Grad, de roquettes sans arrêt. Cela se passe encore assez loin du centre-ville, c'est-à-dire sur la ligne de front au-delà de l'aéroport, mais ce sont des duels d'artillerie entre l'armée ukrainienne et les séparatistes assez bien équipés. Et évidemment, le résultat, la conséquence, c'est des morts, des dizaines de morts, des blessés dans les deux camps. Les séparatistes ne communiquent jamais sur leurs pertes. En revanche, pratiquement tous les jours, il y a entre quelques soldats et quelques dizaines de soldats ukrainiens qui perdent la vie. Alors, ces explosions rendent les gens nerveux, vous vous en doutez.
Oui, j'imagine.
Ils sont stressés, inquiets. On a progressivement basculé ces derniers mois dans une guerre, vous le disiez. La tension de l'été n'avait rien à voir avec ce qui se passait, ce qui se passe maintenant. On sent que maintenant, on est passé à autre chose. Et puis, on le voit parce que les gens se comportent autrement. D'une vie normale, on passe à une vie que je qualifierais d'étrange. Vous savez, on voyait aujourd'hui dans la rue des gens qui cherchaient à comprendre ce qui leur arrivait et puis qui espèrent surtout qu'un obus ne va pas leur tomber sur la tête. Dans les quartiers qu'on a pu visiter, le plus souvent visés par les tirs, eh ben, ils sortent dans la journée et puis ils dorment le soir dans des abris ou des caves. Enfin bref, si ça continue dans quelques mois, ce sera sans doute une catastrophe humanitaire.
Dernière question, Marc. Vous avez décrit l'horreur quotidienne, la peur, l'incompréhension. Quelles sont les perspectives politiques? Il y a quelques minutes à peine, Vladimir Poutine appelait au cessez-le-feu.
Oui, bien sûr, mais enfin, tant que les combats continueront, il est évident difficile de trouver une solution. Le président de la République autoproclamé de Donetsk, Alexandre Zakharchenko, a adopté une posture très ferme à Minsk la semaine dernière, et même au début de cette semaine. Les séparatistes et puis aussi les Ukrainiens se sont rejetés la responsabilité de l'échec. Bon, il faut dire qu'ici, les dirigeants pro-russes ont promis de généraliser leurs assauts. On voit bien qu'ils prennent à peu près toutes les initiatives des offensives. On sait que sans l'aide, le financement, l'assistance militaire de Moscou, ils ne pourraient rien. C'est donc d'abord à Moscou qu'il faudrait trouver une réponse à cette question. Quelles sont les perspectives politiques? C'est bien difficile d'y répondre depuis le centre-ville de Donetsk.
Merci Marc Crépin, correspondant à Moscou en direct de Donetsk en Ukraine, où se déroule donc, je le redis, parce que il a fallu du temps avant de mettre ce mot sur la table, où se déroule donc une guerre en pleine Europe. Thanks so much for that report. Et c'est partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Le massacre des éléphants et des rhinocéros n'est pas qu'une abjection sur le plan de la disparition des espèces, c'est aussi aujourd'hui un trafic international florissant.
À l'heure où les conflits, on en parlait à l'instant, explosent partout sur le globe, où les colonnes de réfugiés se multiplient, à l'heure du réchauffement climatique, de la famine dans les pays sous-développés, il ne faut pas négliger et sous-estimer l'importance du massacre des éléphants et des rhinocéros qui font partie d'un puzzle global. Les tueries généralisées pour récupérer les cornes et les défenses intègrent des trafics directement liés aux groupes criminels, aux puissances financières et au financement du terrorisme, au-delà du danger pour l'écosystème et l'environnement. Le massacre des rhinocéros alimente le marché noir de poudre de cornes acheté à prix d'or en Asie. Composant de la médecine traditionnelle, c'est notamment très prisé au Vietnam puisqu'utilisé dans la fabrication d'un aphrodisiaque. L'ivoire des éléphants, en revanche, est très recherché par les Chinois, vendu très cher. Cet ivoire est l'incarnation d'un statut social très élevé.
Alors, un mot de l'Afrique du Sud. En 7 ans, Eric, le nombre d'animaux tués a été multiplié par 78, ce qui était donc un épiphénomène dans un premier temps, est devenu un véritable massacre quotidien.
Mais on parle de l'Afrique du Sud, en fait, parce que c'est là où se trouve concentré 80% de la population mondiale des rhinocéros. Plus d'un millier de rhinocéros abattus en 2014. Ces chiffres ont provoqué un scandale politique en Afrique du Sud. À cette allure, l'extinction est programmée sur 10-15 ans. Et pour se défendre, le ministère de l'Environnement sud-africain a mis en avant les techniques innovantes des braconniers qui agissent désormais sans armes à feu pour ne pas être repérés. Les rhinocéros sont endormis avec des anesthésiants. À leur réveil, ils n'ont plus de cornes et agonisent dans d'atroces souffrances. Pour enrayer cette chronique d'une disparition annoncée, presque inéluctable, des organisateurs de safari ont transféré une centaine de rhinocéros au Botswana, les a sécurisés dans un parc, les a équipés de capteurs et micropuces pour mieux les surveiller. Mais cette solution isolée, privée, n'est pas envisageable dans sa globalité parce que trop coûteuse.
Et pourtant, il y a urgence à l'échelle internationale. Il faut donner ce chiffre, Eric. Près de 35 000 éléphants ont été tués l'an dernier.
Les chiffres du Fonds international pour la protection des animaux, l'IFAO, 100 éléphants par jour tués. En 2013, 41 tonnes d'ivoire saisies. Des chiffres records. La croissance économique exponentielle de l'Asie est la première cause de l'explosion de ces massacres et des trafics qui y sont liés. Céline Sisler, bienvenue, dirige le bureau de l'IFAO en France et en Afrique francophone.
pour certaines populations d'éléphants, par exemple, on estime leur extinction à 10 ans. 10 ans, c'est demain en Afrique centrale, parce qu'on se rend compte que les populations se sont effondrées considérablement ces dernières années, et l'on sait que c'est pour alimenter la demande en ivoire en Asie. Mais il ne faut pas oublier non plus que si les pays consommateurs se situent essentiellement en Asie, que la Chine est le premier pays consommateur, les États-Unis sont la deuxième destination et l'Union européenne est la troisième destination. Alors c'est vrai que la France est plutôt considérée comme un pays de transit, mais cela prouve que c'est une criminalité transnationale, c'est un trafic transnational qui demande une réponse internationale, et cette réponse doit venir des politiques mais aussi de la société civile avec les ONG qui agissent sur le terrain, qui sont au contact direct de la problématique. Et il faut bien prendre conscience que en perdant les éléphants, en perdant les rhinocéros, on est en train de priver les pays d'atouts possibles pour leur développement. Et ensuite, il faut savoir qu'à partir du moment où on ne met pas en place les mesures pour protéger ces espèces et qu'on se désengage, on laisse la place justement aux groupes violents, voire terroristes, dans certaines régions, qui s'emparent de ces ressources pour financer leurs actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la criminalité liée aux espèces sauvages occupe aujourd'hui le quatrième rang des trafics internationaux, transnationaux, après le trafic de drogue, trafic de contrefaçon, le trafic d'êtres humains.
Céline Sissler, bienvenue, directrice de l'IFAO pour la France et l'Afrique francophone, une ONG qui intervient directement sur le terrain. On l'a bien compris, il faut désormais une volonté politique, mais aussi une réaction de la société civile. Interpol vient de lancer une opération ciblant 139 braconniers identifiés et demande l'aide des citoyens du monde entier pour les retrouver. C'est une chasse à l'homme, en fait, pour retrouver ces braconniers. Un véritable avis de recherche internationale est lancé. Le Zimbabwe a musclé son arsenal législatif. Mugabe promet 10 ans de prison ferme pour tous les braconniers pris en flagrant délit. La France, pays de transit des trafiquants, est un des premiers pays à prendre une mesure à la demande des associations et des ONG jeudi dernier. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a décidé d'interdire l'exportation de l'ivoire brut. Un premier pas avant des réunions programmées aux Nations Unies dans les semaines à venir.
Bon, on essaye quand même, Eric, dans ce tableau assez effrayant, de finir avec une bonne nouvelle quand même. Le tigre est de retour en Inde.
Et ça vous fera rugir de plaisir. Son extinction dans le monde n'est plus à l'ordre du jour, mais l'Inde, qui abrite 70% de la population des tigres, n'a pas grand-chose à voir avec cette résurrection. 4 ONG et des dizaines de chercheurs se sont activés depuis 15 ans pour la protection du félin. Enfin, le lion reste le roi des animaux. Il a lionne sa partenaire, les statistiques le rappellent. Elle a la possibilité de s'accoupler 50 à 60 fois par jour. On comprend mieux pourquoi dans les documentaires animaliers, le lion apparaît toujours amorphe, couché dans sa savane, et c'est madame qui chasse.
Merci Eric Valmire pour cette conclusion. Il est 18h48 et vous écoutez Inter.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building.
Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Sur la voix de Léonard Cohen, direction Montréal ce soir. Vous nous parlez d'un film québécois qui est une plongée assez sidérante dans les milieux juifs hassidiques.
Et Léonard Cohen, qui vit à Montréal, a accepté pour une somme relativement modique de prêter son fameux manteau bleu au réalisateur Maxime Giroux. Et le mood, l'humeur de cette chanson colle parfaitement au film, à son esthétique aussi. On est vraiment dans quelque chose de très bleu. C'est donc une histoire d'amour à trois. Un homme, une femme et la religion entre eux. La jeune femme Mera est mère d'une toute petite fille. Elle vit enfermée dans une communauté juive hassidique. Alors on les connaît mieux en Europe sous le nom de Lubavitch. Ce sont des juifs très orthodoxes qui vivent en quasi-autarcie, très peu de liens avec le monde. Ils sont habillés de manière traditionnelle, les femmes avec des perruques, les hommes avec de grands chapeaux de fourrure. Maxime Giroux a réussi à approcher cette communauté qui ne s'approche guère, par le biais notamment de ceux qui en sont sortis. L'un d'eux notamment joue le rôle du mari de Mera. Alors on les appelle les rebelles, ceux qui en sortent, ceux qui renient la religion.
C'est des rebelles, deviennent un peu
la honte un peu pour leur communauté. Généralement, ils ne peuvent plus voir leurs parents, leurs frères et sœurs. Donc, s'ils ont 12 frères et sœurs, ils ne les voient plus. Mais tout est en train de changer. À l'arrivée d'Internet, même s'ils n'ont pas le droit d'y aller sur Internet, ils ont le droit d'y aller pour faire de la business, en fait. Mais ils le prennent pour autre chose et ils se rendent compte qu'il y a des organismes qui sont là pour les aider s'ils décident de sortir. Donc, ils vont leur prêter des appartements pour quelques mois. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre que quand on sort de cette communauté, on n'a rien.
Oui, il n'y a pas d'études, mis à part l'étude de la Torah.
Non, il n'y a pas d'études. Pour les hommes, il n'y a pas d'études. Pour les femmes, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas assez pour trouver un boulot. Alors moi, je connais une femme qui a quitté la communauté au Québec, qui est allée s'installer à New York. Elle ne se trouve pas de boulot dans notre société. Donc, le matin, elle s'habille en femme juive hassidique, comme elle le faisait pendant 20 ans de sa vie. Elle va travailler dans sa communauté. Et le soir, ben, elle enlève ses vêtements puis elle sort dans les bars.
Mais est-ce qu'au Canada, ils sont considérés comme une secte? Parce qu'en France, ce serait limite un processus sectaire et pour aider ces gens à sortir, on les aiderait comme on aide des gens à sortir d'une secte?
C'est une bien bonne question. Il y a quand même 15 000 personnes à Montréal. Hein? Alors, est-ce que c'est une secte? A priori, il n'y a pas de problème, mis à part le fait que... ils n'ont pas d'éducation. C'est quand même un gros problème. Mais là, certains ex-membres de la communauté poursuivent le gouvernement au Québec et aussi aux États-Unis parce que, pour eux, c'est la responsabilité du gouvernement de donner une éducation et ils ne le font pas. Ils ne le font pas pourquoi? Le gouvernement ne le fait pas pourquoi? Parce que c'est très difficile d'aider en bon québécois, là, de négocier avec cette communauté-là qui est très fermée, et qui est une communauté juive et qui... historiquement, le Québec francophone a eu des problèmes avec les communautés juives. On était vu comme antisémites. Pas tout le monde, bien sûr, mais une communauté antisémite. Donc, maintenant, on a vraiment de la misère à négocier avec eux. Parce que, vous savez, c'est très complexe.
Well, I see you there with a rose in your teeth.
Voilà donc une histoire d'amour au pays des Lubavitch.
Eh oui, c'est exactement cela. Sincèrement, ça en vaut le détour. Tellement d'ailleurs que Félix Semeira a raflé le prix du meilleur film au Festival international de Toronto à la barbe du multisacré Mommy de Xavier Dolan. C'est une performance.
Merci Laurence Perron. Il est 18h53.
Un jour dans le monde.
Alors, l'Europe se suicide tranquillement. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Au revoir, comme dirait Giscard. Ce sera ce soir.
Sur France Inter.
Vous avez reconnu sa voix, c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Vous vouliez rendre hommage ce soir à l'une des plus grandes consciences de l'Allemagne de l'après-guerre.
Oui Nicolas, hommage à Richard von Weizsäcker. L'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, peu connu en France, est entré dans l'histoire en prononçant une phrase. C'était le 8 mai 1985 au Bundestag pour les 40 ans de la capitulation nazie. Citation, le 8 mai 1945 fut un jour de libération. Il nous a tous libérés du système avilissant de la terreur nazie, avait proclamé Weizsäcker, président sans autre pouvoir que celui de la parole. Le constat nous semble évident, il n'était pas à l'époque. On parlait de capitulation. Certains accusaient encore l'ancien chancelier Willy Brandt de désertion ou de traîtrise pour avoir combattu l'Allemagne nazie. Weizsäcker, ce jour-là, au fond, libéra l'Allemagne de son passé, la tourna vers l'avenir. Il est décédé samedi à 94 ans. Weizsäcker, c'est un destin allemand. Membre de la grande noblesse protestante du Württemberg, il traversa l'Allemagne du XXe siècle. Son frère mourut au premier jour de l'attaque d'Hitler contre la Pologne. Son oncle travailla à la recherche sur la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Surtout, son père, le diplomate Heinz von Weizsäcker, fait partie de ces nobles qui collaborèrent avec les nazis. Il finit adjoint de Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères de Hitler. Ce père approuva la déchéance de la nationalité de l'écrivain Thomas Mann. Il adhéra au parti nazi, entra dans la SS et fut rattaché à Himmler, il approuva explicitement la déportation de 5000 juifs français vers Auschwitz. Après s'être réfugié au Vatican, il se livre en 1947 aux Américains et traduit devant les tribunaux de Nuremberg, condamné à 7 ans de prison pour crime contre l'humanité, c'est peu, il est gracié l'année suivante. C'est son fils, Richard von Weizsäcker, alors étudiant en droit, qui prit sa défense. Et c'est là que le jeune étudiant découvrit l'étendue des crimes nazis. Nous l'avions rencontré, Richard Weizsäcker, en 1999, dans l'immeuble qu'habite désormais Angela Merkel. Homme affable et pris de réconciliation, nous lui avions posé la question candide. Saviez-vous qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne ? Bien sûr, avait-il répondu, ma mère avait été demander à Göring la libération de notre pasteur. En 1945, le jeune officier de la Wehrmacht, Weizsäcker, est démobilisé. Il arrive à la ferme familiale en Bavière. Il était le seul homme parmi ses femmes, nous confie-t-il. Elles avaient peur de l'armée française et des soldats des colonies. Preuve que la crainte des viols ne provenait pas uniquement des Russes. L'homme, après la guerre, travaille dans le privé, devient membre influent de l'église protestante d'Allemagne et œuvre au rapprochement avec la Pologne. Maire de Berlin, Ouest de 1980 à 1984, puis président de la République pendant 10 ans, il manque la chute du mur de Berlin. Lorsque tombe la nouvelle de l'ouverture de la frontière, il écoutait la radio, en voiture, en voyage, dans le sud de la Bavière. Curieusement, le président n'accourt pas, à la différence de Helmut Kohl, qui interrompt son voyage à Varsovie, et mène tambour battant la réunification. Une manière de faire que Weizsäcker reprocha amèrement à Kohl, le chancelier refuse pendant des semaines de reconnaître l'intangibilité de la ligne Oder-Neisse, la frontière avec l'Allemagne, pour des raisons électoralistes. L'affaire provoque une grave crise avec François Mitterrand. En d'autres temps, cela eût signifié la guerre, nous confia à l'époque Richard von Weizsäcker. Mais le temps de la paix était venu, un peu grâce à lui, qui fut une conscience allemande du XXe siècle.
Arnaud Le Parmentier, merci. Et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne de ce lundi à 19h20. Sur quoi ?
Eh bien, nous parlons du proxénétisme ce soir, Nicolas. Nouvelle filière, liée notamment aux filières de l'immigration clandestine. Nouvelle organisation, en raison du développement de la cyberprostitution. Le proxénète reste néanmoins une figure centrale de la prostitution en France. Alors, qui sont ces hommes, parfois ces femmes, qui organisent et tirent profit de la prostitution ? Comment police et justice remontent, démantèlent ces réseaux et cette économie souterraine fondée évidemment sur la violence mais qui génère beaucoup, beaucoup d'argent. Quelle est la coopération internationale en la matière et comment éventuellement venir à bout du proxénétisme ? J'attends dès maintenant vos questions. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 et nous poser également vos questions sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Merci Hélène, on vous retrouve donc à 19h20. Un mot pour vous dire que l'invité de Patrick Cohen demain matin à 8h20 sera Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, président de la métropole de Lyon. Augustin Trapenard recevra lui Romain Goupil dans Boomerang à partir de 9h10. 9h40, c'est l'instant M de Sonia De Villers. Le divan revient. Marc-Olivier Fogiel aussi. Il sera donc au micro de Sonia. Dans deux minutes, le journal.